Bonjour à toi auditeur, tu viens de lancer un épisode de la saison 1 du podcast À Chaud. Ce message pour te prévenir de la qualité hasardeuse de cette saison, avec du matos pas top et le concept de s'enregistrer au milieu de la rue à l'arrache qui n'était pas top non plus. Bref, on a amélioré tout ça avec la saison 2, où là on est en studio avec un son correct. Enfin j'espère. Si tu es aventurier, et ça j'en doute pas, continue la lecture, parfois il peut y avoir des bonnes surprises. Allez, bonne écoute.
Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid.
Comment ça va faire? Comment faire?
Hier, j'en ai pas gratté depuis quelques temps.
J'ai chaud, je me sens pas très bien.
Non, c'est le vin chaud. Ça va aller.
Si t'as ni chaud ni froid, eh ben t'appuies sur le bouton marqué médium.
Eh bien, on sort de la séance de Ad Astra, cette semaine, de James Gray.
Bonsoir, JB.
Bonsoir, Lionel. Alors, après ces 2h04, ça change des 2h50 de ça.
Non, moi j'ai vu la version de 2h03.
Ah, 2h03. Je t'ai levé un peu vite en fait à la fin, c'est pour ça.
Tu vas me raconter ce que je n'ai pas vu dans ce cas, ce que j'ai loupé. Non, moi j'ai bien aimé.
Donc à la strade de James Gray, l'histoire... Tu peux juste raconter un peu l'histoire.
Donc c'est l'histoire d'un astronaute, McBride. McBride, comment il s'appelle? C'est quoi son prénom?
Roy McBride.
Roy McBride, qui est donc envoyé pour une mission, on va dire, de récupération d'une station qui apparemment commettrait des surtensions qui provoqueraient des dégâts cataclysmiques sur la Terre. Et limite, la prochaine surtension pourrait vraiment causer la mort de l'espèce humaine.
Donc en fait, il est envoyé sur Mars d'abord.
En mission secrète.
Mission secrète pour communiquer avec son papa, parce que c'est son papa
père qui était à l'origine de la mission 27 ans.
27 ans plus tôt, ouais.
30 ans plus tôt. Okay. Et cette fameuse mission.
Et c'est avec qui? Alors, on va juste dire.
Brad Pitt dans les rôles principaux. Brad Pitt. Liv Tyler dans la femme ou la compagne de Brad Pitt, mais qui...
Ouais, c'était sympa de la voir, c'était cool.
On la voit à la fin et au début, autrement sur des vidéos de messages, mais autrement...
J'avoue que je l'ai...
Elle parle pas en plus. Quoi.
Non, elle parle pas. J'avoue que je l'ai capté que à la fin. Que à la fin, en fait. Je me suis dit, est-ce que c'est elle? Et c'est pour ça que je t'ai dit, on reste un petit peu... Enfin, on reste toujours un peu pour le générique.
Oui, exact.
Et j'étais curieux de voir, et d'abord, ça a été le cast... Enfin, c'est pas été le cast, c'était l'équipe technique. Voilà. Alors, premier avis à chaud...
Moi, j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, malgré les 2h03 du film. Mais pour le coup, ça passait beaucoup mieux, tu vois, par exemple, que Hit, donc chapitre 2 qu'on a vu la semaine dernière.
On a bouffé.
En 2h50. Là, ça se digère mieux. C'est mieux géré au niveau du temps. Et une intrigue qui est intéressante, du père.
Comment? Autant le film est plus lent. Tu vois, moi, je trouvais que le film était beaucoup plus lent. Il se passait moins de choses que dans. Même s'il est très dense, mais il se passait moins de choses que dans Hit. Mais au moins on sort. Moi je suis un peu groggy, tu vois, parce que l'inertie spatiale m'a un peu emporté.
C'est vrai que c'est. Ouais.
On est un peu groggy, enfin je trouve qu'on est un peu. Pas cassé, mais.
On ressort un peu tout le long du film, effectivement. Voilà. Cet effet d'apesanteur qu'il y a pendant tout le film. Effectivement, on ressent un petit peu
à la fin. Ouais. C'est. Mais du coup, j'ai rejoint ton avis. J'ai trouvé ça pas mal, franchement bien. Tu vois,
des très beaux plans, des très belles photos.
C'est magnifique. J'ai lâché l'affaire.
Des très belles images, si, les planètes Neptune à la fin.
C'est magnifique.
Les anneaux, c'est magnifique.
Donc en fait, il faut dire qu'en fait, la première mission Lima, qui était partie en exploration 27 ans plus tôt, et en fait, c'est paumé autour de Neptune, et leur mission, c'était de chercher la vie extraterrestre.
Voilà, exact.
Voilà, c'est ça en fait. Et donc du coup, il y a une espèce de... Voilà, ils ont fait un peu sécession, il y a une mutinerie.
Au bout de 16 ans, en fait, ils n'ont plus donné de nouvelles, en fait. Mais on apprend après qu'il y a une mutinerie. L'origine, c'est juste, en fait, les communications ont été coupées, donc plus de signal, plus de signaux. Voilà. Et dans le film, dans le film, on découvre, en fait, qu'il s'est passé des choses.
Alors, autant prévenir tout de suite, ce n'est pas un space horror.
Non.
On est plus en accord avec un proche d'un Interstellar. Moi, j'ai beaucoup pensé à Mission to Mars de Brian De Palma, que j'avais beaucoup aimé, sauf la fin. Je voulais justement... décevante parce que justement on avait le
Là, c'est un peu la recherche d'extraterrestres. Enfin, c'est toujours cette question de est-ce que nous sommes seuls dans l'univers. Bon, on va pas trop parler de spoilers maintenant, mais Mission to Mars avait eu le défaut de trop montrer, en fait. Là, je trouve que... Parce qu'à la fin, je sais pas si tu te souviens, Gary Sinise, il va sur Mars, et puis en fait, il capte des, un artefact alien. Et donc, bref, et on voit les aliens, et c'était très mal foutu.
Non, mais justement, là, on y reviendra, mais... Dans celui-ci aussi, on pourrait supposer... On sait pas si...
Ouais. Voilà, on en parlera plus tard.
Oui.
Bref, ouais. Et écoute, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard, mine de rien. Je trouve que la réal de James Gray... Après, je suis pas un coutumier de James Gray, du cinéma de James Gray.
Moi non plus, mais ce que j'ai pu voir de lui, j'avais bien aimé. Dont La Nuit nous appartient. Apparemment, Tout Lover, c'est bien aussi, je l'ai pas vu.
Écoute, ouais, je sais pas, j'ai toujours été un peu... Enfin, je l'ai... Vous voyez, je sais pas, il m'est passé au-dessus. J'ai jamais trop vu son cinéma, en fait.
D'un moment, il avait fait The Lost City of Z.
Ouais, le dernier, en 2016, mais...
Exact.
J'ai passé à côté, en fait. L'histoire d'exploration, enfin, ça m'a jamais... Enfin, ces films n'ont jamais vraiment attiré, en fait.
Non.
Je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que je passe à côté de quelque chose de très... Enfin, de... Voilà, je sais pas, de se gâcher. Mais en tout cas, je suis toujours passé à côté de son cinéma.
Ouais.
Et là, je trouve que la réal était pas... était correcte. Très classique. Une réal très classique.
Les scènes dans les stations, j'ai trouvé ça...
Il aurait pu faire pire. Ouais, non, vraiment.
Je trouve que c'est bien amené, c'est bien tourné. C'est...
Mais on est proche de Alfonso Cuarón avec Gravity, je trouve.
Ouais, vraiment, dans l'ambiance vraiment des spatiaux, des astronautes.
Ouais,
avec
voilà.
Eux, on est vraiment avec eux, effectivement.
C'est un space, c'est du realistic space. C'est pas du tout du Space Horror, on n'est pas dans... J'ai vu il y a pas longtemps Alien 4 de Genet, on en parlait.
Là par contre, à mon avis, les lois de l'attraction, les lois de la gravité, on s'en fout un petit peu.
C'était peut-être, un peu à côté de la plaque, mais non, là c'est intéressant parce que justement les vaisseaux spatiaux sont passés dans un futur proche et les vaisseaux spatiaux sont tout à fait comme maintenant, tu vois, c'est pas du tout... on n'est pas du tout dans un truc futuriste, tape à l'œil en fait,
non.
Vraiment c'est quelque chose de...
On reste limite avec une technologie qui pourrait nous parler, quoi. Enfin, ça reste
des fusées.
C'est pas des navettes spatiales, quoi. C'est pas. On s'y retrouve, quoi, en fait. On arrive à s'y retrouver dans tout ce décor futuriste proche. Ouais. On n'est pas perdu.
On comprend
par contre qu'ils maîtrisent bien, quoi.
Oui, voilà.
Ils vont dans l'espace ils prennent l'avion, quoi.
C'est par contre ce truc que j'ai trouvé qui m'a saoulé.
Bon, on va faire une escale d'abord sur la Lune.
Voilà, en fait, parce que d'abord ils partent de la Terre. Une espèce d'antenne folle comme ça qui part de la Terre pour.
Tu sens que c'est easy. Hein. La Lune, c'est.
Bon, avec des petites références où c'est Virgin et c'est pas SpaceX, tu vois. Donc c'est un vol commercial. La Lune, c'est fait par Virgin, donc petite pub. Et la Lune est très bien. Donc ils sont vers la Lune, après ils partent sur Mars et après.
La mission secrète commence vraiment avec la navette.
Brad Pitt arrive à s'enfuir et donc voilà. Mais je trouvais que justement c'est intéressant d'avoir ce côté très réaliste. Après, moi ce qui m'a saoulé vraiment, c'est le fait que dans l'espace, les distances sont énormes, mais genre pour aller sur Mars, il met 19 jours. Alors que là maintenant on parle de, l'émission avec SpaceX,
ouais.
C'est genre 2 ans de voyage quoi.
Tu vois, c'est le futur proche. Hein,
c'est des
acquis qu'il faut
prendre en compte. Les trajectoires, tu vois, où en fait en gros t'as des fenêtres de tir entre guillemets.
Ouais.
Tu vois, donc là t'as des fenêtres de tir, t'as des calculs de trajectoires. Là c'est un peu, là comme je te pousse. Enfin, c'est pas le propos intéressant du film.
C'est pas là-dessus que ça se base.
C'est pas dessus qu'il faut compter, en fait.
Le film se divise en deux parties. Il y a une première partie très spatiale,
ouais.
Où on les voit partir dans la mission, et une deuxième partie où c'est... Est-ce qu'on peut spoiler
on va juste finir une dernière minute. On reste ici. Une dernière minute sur la vie générale et...
La vie générale, après le jeu d'acteur de Brad Pitt.
Oui.
Bon, le range n'est pas énorme, on sent que le mec.
On parlait avant, mais.
Bon, Brad.
Le range, moi, j'avoue que ça m'a un peu bloqué et Tom Lee Jones cabotine un peu. J'ai beaucoup aimé voir Donald Sutherland.
Très bon.
Donald Sutherland, excellent.
Franchement, il est excellent. Ouais.
Ça fait plaisir de le voir dans d'autres rôles que Hunger Games et tout ça.
Oui, exact. Il a un très bon second rôle, quoi, qui apporte vraiment de la consistance à Brad Pitt aussi. Tu comprends, ça amène des pistes intéressantes.
Qui sont intéressantes,
super intéressantes.
Et voilà. Donc, franchement, je trouve que c'est à conseiller. particulier. C'est, faut pas s'attendre à de l'action pure et dure.
Non, mais il y a un petit côté thriller qui est intéressant.
Il y a des petits stress par-ci par-là, mais bon, qui sont assez vite évacués. Moi, je trouve juste, au niveau de la réflexion, on est loin d'un 2001, d'un Interstellar, mine de rien. Je trouve que, voilà, c'est pour ça que je dis
qu'il n'est pas sur un message global par rapport à la Terre, quoi. Sur une relation d'un père et d'un fils.
Voilà, c'est ça. C'est une relation père-fils qui est vachement approfondie.
Mise en avant,
Après, voilà, moi, le fan de sci-fi pur et dur et hard sci-fi tel que je suis est un peu déçu par ce côté un peu où les questions métaphysiques sont un peu mises de côté.
Pour une approche sur la relation.
Une approche très humaine, en fait. Humaine. Et ça m'a un peu manqué, en fait. Voilà, ça, c'est mon avis.
C'est ce qui a péché pour toi. Ça, moi, j'ai relativement bien aimé justement cette partie-là avec Tommy Lee Jones. Moi, ça m'a concerné. Je suis rentré dedans.
Ok. Voilà.
Et Tommy Lee Jones, à la différence de toi, je trouvais que ça allait.
Ouais.
Cabotiné, ouais, j'irais pas jusque là quand même, mais ils l'ont bien vieilli. Hein. Putain, il est bien.
C'est pas eux qui l'ont vieilli. Non, c'est lui qui est bien vieux.
Ouais,
en
mais tu sais, avec la fatigue, enfin, tu sens vraiment les années qui l'ont pesé, et c'est. Non, j'ai trouvé bon. À la différence de Luke Tyler qui est inutile, mais bon, il faut une caution féminine, et l'amour. Et,
oui, voilà, qui soit là.
Ok, d'accord. Je pense qu'ils auraient pu, à la fin, on aurait pu s'en passer, en fait.
Voilà.
Toute la fin pour moi, en fait. Ouais, enfin, retour à la Terre.
Ouais, c'est un petit peu trop, mais ce n'était pas trop gênant. C'est pas.
Non,
c'est
mais
pas
on
grossier.
S'en doutait, en fait, de ce qui se passait. Pas tout le monde, il revient sur la navette à la fin. Ouais. Oups.
Non, voilà. Ouais.
On sent la fin, on voit ce qui va se passer. Quoi. Voilà. Donc pour moi, il y a 10 minutes
je
de trop.
Ça, je couperai ça.
Ouais. Tu t'arranges. Hein.
Ouais, ça m'arrange. Ouais. Bref, bon, voilà. Bah, je dirais quand même un bon 7 sur 10. 7 vaisseaux,
ouais,
7
ouais.
vaisseaux sur 10. Moi,
j'irais. Ouais, 7, entre 7 et 8 pour moi. Ouais. Exact,
ouais. Parfait. Bon.
Donc on décide aussi de mettre des notes maintenant.
Bah, je me dis 7 vaisseaux sur 10, tu vois. C'est cool, quoi. Bon, mec, maintenant la question qui est le plus importante, c'est est-ce que ce putain de Burger King est ouvert?
Mais oui, il doit être ouvert, il est même pas 10h. Il doit être encore ouvert. Ouais, 9h30,
c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas trop tard pour toi?
Non, c'est bon, je te dis, moi, si genre à 10h30, je suis rentré.
Ok, bah, parfait, ça sera le cas. Ok, ouais, bah écoute.
J'en ressors quand même beaucoup plus agréablement que de Hit.
Mais
c'est une meilleure expérience.
Là, on a affaire à un vrai réalisateur aussi.
Et la recherche au niveau de la photo, franchement, elles sont
putain,
belles.
C'est magnifique.
Même les navettes. Enfin, j'ai beaucoup aimé la station spatiale au début sur le plan vertical.
Oui.
C'est super intéressant, c'est, ça. Où elle parle de la Terre.
C'est une antenne qui part.
Tu comprends, ouais, effectivement. D'ailleurs, cette scène. J'ai bien aimé cette scène début.
Quand il y a une avarie et puis il se casse la gueule de l'antenne à cause de justement la surcharge, la première surcharge d'énergie entre guillemets,
exact,
qui est envoyée sur la Terre.
Ouais.
Putain, c'est. Elle est,
et tout est lent. Et là encore, c'est en apesanteur.
Ouais, c'est Brad ça qui est cool.
Qui gère et tout ça. Et tu sens qu'autour de lui, tout s'effondre. Et
après,
il contrôle. Le mec, il contrôle.
Ouais, mais justement, au niveau de son range d'acteur, c'est chiant, quoi, putain.
Tu sais qui aurait pu faire ce rôle?
Vas-y, je vois.
Ryan Gosling.
C'est vrai.
Sauf que ça aurait été compliqué de lui mettre le blouson de Drive sur la combinaison de cosmonaute.
Ça rentre pas, tu vois.
Mais non, Ryan, t'es pas obligé de la mettre. J'adore cette veste. Je la veux.
Elle est à moi.
Je l'ai eu à un film il y a longtemps. Vous connaissez Drive? C'est une des meilleures.
Mais non, c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a un peu gêné sur l'ensemble. C'est qu'il survole. Enfin, il est là et pas là en même temps. Merde.
Bah, ils essayent de l'expliquer, hein, de le justifier, tout ça, mais
oui,
c'est vrai qu'on...
les checks, les contrôles psychologiques constants. D'ailleurs, à un moment, il foire son contrôle parce qu'il a un peu d'émotion. Et tu dis, mais mec, il a deux émotions. Et
ouais, mais c'est déjà trop, quoi. Je ressens de la compassion. Oh putain, faut le virer. C'est pas bon du tout, ça.
Mais
quand les gens manquent de compassion comme son père, et qu'ils du coup décident carrément de faire
tout,
ce qu'il fait, là par contre, là encore, il est viré.
Oui, voilà.
Attendez, qu'est-ce que vous voulez, les gars?
Non, j'ai bien aimé, franchement, la Lune.
Les plans sur la Lune sont très beaux.
Voilà, c'est-à-dire que quand il est envoyé en mission, il part sur la Lune et la représentation de la Lune est très proche de 2001. On est très proche de 2001 dans l'esthétique de l'entrepôt, parce que c'est les entrepôts. Et c'est ça ça paraît super juste, en fait.
Ouais,
ça paraît tellement vrai, tellement réaliste. On est loin de cette space ce space dream, tu vois, où tout est super technologique, ou à la
tout qu'on a jamais Star Trek, vu, tu vois, voilà. Complètement novateur. Non, c'est vrai que là,
que ce soit la Star Trek avec des HUD partout et des écrans, et là, c'est sobre. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve.
Pour moi, ça marche justement. Ce réalisme en fait qui te permet en fait d'y croire, quoi. Enfin, tout le temps, ouais. Tu y crois tout le temps. C'est un futur proche, moi je le vois comme ça, effectivement.
Clairement.
Dans
pareil,
la conquête
ouais.
spatiale, je le vois complètement comme ça.
Même on a envie que ce soit comme ça d'ailleurs, justement.
Mais c'est vrai que ça
après, voilà, c'est je trouvais que voilà, là, comme je disais, la réal était un peu classique. Il y avait.
Il y a des idées quand même, je trouve qu'il y a des idées.
Oui, en même temps, cette sobriété, et je trouve vraiment très intéressante.
Ouais.
C'est vraiment très intéressant parce qu'on est loin en fait, d'un tape à l'œil. Et je pense que là, la force de James Gray a été de faire cette approche-ci, quoi, en fait. Mmh. De justement d'aller dans une approche.
Non, mais bah, tu vois, en fait, on est toujours collé aux astronautes. T'as quelques plans, effectivement, où il va te montrer l'espace dans lequel tu es, dans l'environnement, mais très souvent, en fait, on est collé quand même à Brad Pitt. Hein.
Oui, on ne voit que lui, quoi.
Quasiment les 90% des cas, on ne voit que lui, quoi.
C'est que lui.
Et c'est vrai qu'il faut savoir, bah oui, c'est un personnage quand même qui est très froid, très dur, très côté militaire énorme. Donc,
qui contrôle son pouls tout le temps.
Voué à sa mission, voué à son travail, au point d'en perdre sa femme, de perdre les enfants qu'il n'a pas eus. Son rôle est intéressant et mais putain qu'il a quand même une tête de bovin par moment.
Ouais putain.
Et putain quoi.
Ok, le on regard. Est enfin dans le Burger King. Commande 66 mon gars.
Là, il a la commande, je dois être pas loin derrière. Là, il a la commande.
Tu vas payer maintenant. Vous devez payer monsieur. Moi je suis plus cheese. Ah,
comment 66
ouais.
66
Ah, tu voulais pour manger ici.
Oh, j'ai pas écrit mon portail.
Ah, pardon, c'était moi qui m'a tapé. Désolé.
Pas de soucis. Je vous laisse juste les prix dans le sachet comme ça je ne touche pas.
Pas de problème. Parfait. Merci. Okay. Elle a cru que je prenais emporté.
Hein?
Elle a cru que je prenais emporté. Hein? C'est quoi ce délire là?
Ouais, t'as. Tu t'es pas trompé?
Non, non, j'espère pas. Non, c'est bon, il y a de l'eau donc c'est moi. Je suis le con à prendre de l'eau.
Bon, à mon avis, ça va pas traîner. On se met en haut du coup?
On se met en haut, tu veux que j'aille déjà en
ouais,
éclaireur?
Vas-y.
Ouais, ouais. Je veux prendre un bon spot. Hein. On est au calme.
C'est bien, ouais. C'est bon.
Mais bien. Ouais, j'étais pas, là. Et au chichis, moi, j'avais mangé, c'était juste là.
En bas.
En bas, ouais.
Ah, c'était marrant, du coup, c'était aussi grand que ça, le chichis.
Hein. C'est énorme, hein.
Ok.
Non, par contre, du coup, j'ai pas de.
Pas de serviette.
Pas de serviette et pas de. Et pas de sel. Comme un con.
Ah, merde. Attends, je vais manger
tout. Non, t'as gaffe.
Bah, pour moi aussi.
Bah, si tu veux en chercher, j'en veux bien. Mais je t'avoue que j'ai un peu la plaie.
Non, mais j'ai plus la
plaie. Ah, yes. T'es le génie. T'es le grand génie.
Qu'est-ce que c'est facile d'être un génie.
Ah ouais. Un peu de sel et c'est parti, quoi.
Allez, hop.
On l'aura mérité, ce burger. Je te vois.
Ouais, là, pour le coup.
Ouais, écoute, moi, la lune, j'ai vraiment kiffé.
J'ai passé sur la lune.
Mars aussi, c'était kiffant.
Alors du coup, est-ce qu'on reprend un petit peu donc par rapport au début du film?
Oui, on peut
comment
reprendre.
Comment ça se passe? On a une...
On peut partir doucement, on n'est pas obligé de faire non plus 15 000 trucs. Hein. Bah, ce qui est bien, c'est que... Autant la semaine dernière, on était tous les deux d'accord que c'était vraiment de la merde.
Ouais.
Autant cette semaine, on est d'accord tous les deux que c'est vraiment bien.
Ouais. Non, je le redis, enfin... Une chouette expérience, enfin, tu ressors un peu groggy mais dans le bon sens.
Oui.
Tu t'apprécies d'avoir pris un peu ça dans la gueule avec toute cette intrigue parce que moi cette intrigue elle m'a plu en fait. J'étais vraiment curieux, j'avais vraiment envie de savoir ce qui était devenu au père.
Bah,
je m'attendais pas à ce qu'il soit encore vivant par contre.
Ah, si moi je l'ai senti comme ça mais. J'étais juste un peu déçu par au final, peu de métaphysique en fait devant.
Non, c'est vrai, tout le monde dit ça, effectivement, métaphysique, métaphysique, mais.
Et alors, est-ce qu'on oublie d'en avoir ? Non, mais est-ce que. C'est parce qu'on parle de l'espace qu'on a besoin de métaphysique, mais pour moi, je pense que. Ce sont des questions qui se posent. Les voyages dans l'espace et tout ce qui est entré à l'espace, ce sont forcément des questions philosophiques sur ce qu'est l'essence même de l'humain, tu vois. Sur, au final,
bien sûr, l'origine. À travers la découverte de d'autres espèces vivantes, de pouvoir justement nous savoir.
Est-ce qu'on est seul sur.
Déjà, et d'où est-ce que l'on vient dans ce cas-là aussi.
Mmh. Exactement. Donc, pour moi, effectivement, un film de science-fiction, bah, tout objet de science-fiction doit apporter. Doit parler de ça. Alors que c'est trop too much, parce que je suis trop exigeant. Trop pointu, mais.
Là, c'est pas le sujet en fait, c'est un prétexte.
Non, c'est un prétexte. Donc en fait, c'est ça qui moi, m'a un peu déçu, c'est le côté que c'est bien beau, mais au final.
Oui, il est vexé, j'y vais. Non, non, mais on mais a utilisé son sujet favori pour en faire un prétexte. C'est pas juste, on n'a pas le droit de faire ça.
Je préfère regarder Event Horizon dans ce cas-là, tu vois. Un gros Space Horror.
De Paul Wes Anderson.
Non, ouais.
Oula. Si, je crois. Hein. Ah non, c'est peut-être Dorian qui avait fait ça.
Alors, Event Horizon et Laurence Fishburne et Sam Neill.
Si, je crois que c'est d'Anderson.
C'est Anderson, c'est le mauvais Anderson.
C'est le mauvais Anderson. Oh, c'est un des.
Attends, je regarde ça tout de suite. J'avoue que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai pas retenu le.
Voilà, on est déjà en train de tergiverser sur d'autres sujets que le film.
C'est ma faute, ça, c'est moi.
Pareil, combien que dans 10 minutes on parle de Bilbo le Hobbit. pas bien. Putain.
Alors attention, t'as putain, c'est le mauvais Anderson.
Hein. Ouais,
c'est
Paul Wes. Tu vois Paul Thomas.
Paul Anderson. WS. Paul
tu vois Paul Thomas Anderson faire Event Horizon.
Non, plus qu'il y ait jamais. Ni Wes Anderson. Que, le jour où Wes Anderson fait de la SF, putain.
Ah, Paul Thomas Anderson.
Non, pas plus qu'il y ait le bon, l'autre bon. Wes Anderson. Ah, c'est Paul WS.
Ah oui, là tu parles de celui qui a fait.
L'ancien mari, lui qui a fait Soldier, qui a fait. Resident Evil, avec sa femme.
Là je veux bien. Qui ne tourne d'ailleurs que pour lui maintenant. Enfin non, j'abuse.
Est-ce qu'elle a été une bonne actrice un jour ? Non.
Question qui est. Le premier Resident Evil. Voilà, donc un petit peu j'aime qu'il y a un énorme lien entre Resident Evil et Ad Astra.
Voilà.
Donc si vous avez kiffé Resident Evil, courez vite voir Ad Astra.
Vous allez adorer.
Il y a des animaux méchants.
Il y a un singe méchant. Mais ça c'était cool ça. Alors, on reviendra. Attends. Ouais. On va donc au début donc on voit que le major Roy Brad Pitt est sur une antenne qui part de la Terre juste dans l'espace.
Exact. Et en fait, de satellite, mais avec une connexion à la Terre.
C'est comme, oui, c'est comme l'ISS, mais genre jusqu'à 30 km de haut, quoi.
Mais franchement, moi, ce principe de la filmer, de la montrer, ben de la concevoir verticalement, là où généralement on est plutôt sur des plans horizontaux, quoi. Enfin, à plat, quand on montre une station avec des plans larges, des plans reculés, là, en fait, tu la découvres au fur et à mesure de son exploration, par notre.
Oui, par la suite.
Son démarche, tout ça, son avancée sur la station, on comprend très rapidement en fait, qu'elle est toute verticale. J'ai trouvé ça assez impressionnant.
C'est assez dingue. Surtout le premier plan, Brad Pitt sort dans le vide. Ah, il est.
Ouais.
Dès le début, c'est en voie du passé.
Ça m'a fait penser à ce mec qui avait.
Ah
sauté,
oui, Félix Baumgartner.
Avec la sponsorisée par Red Bull.
Oui, mais pareil, j'ai le même. Je
m'attendais à voir un taureau rouge apparaître un moment quelque part. Là, c'est un mec avec un fagnon. Vas-y, Brad, saute. Et il saute, hein, au bout d'un
moment. Il saute, oui, parce qu'en fait, t'as eu. Donc, en fait, ils appellent The Surge. C'est donc, en fait, une espèce d'attaque électromagnétique.
Exact.
Qui vient de Neptune. Là où est la mission de son parti son père.
Ça que l'on découvre après, mais effectivement.
Après.
Au début, on ne sait pas ce que c'est, effectivement.
On peut penser une attaque extraterrestre.
Limite, ouais. Après, au début, mais très rapidement, quand même, avant même qu'il parle de la station et de la mission Lima.
Oui.
Il parle déjà de surtension.
Ouais, il le dit assez rapidement. Et
Ils connaissent la cause, mais pas l'origine. Donc c'est le problème.
Voilà.
Enfin, l'origine, si.
L'origine, mais pas.
Assez rapidement, en fait. Ouais.
Ouais. Et donc le Major Brad Pitt, lui, envoyé d'abord sur la Lune, pour en fait après partir sur Mars. Donc ça, c'est la mission. La mission, c'est en gros, Brad Pitt doit aller envoyer un message. En fait, un message à son daron depuis Mars. Et pour aller sur Mars, en fait, il doit aller d'abord sur la Lune.
Ouais. Parce qu'en fait, on découvre très rapidement aussi que Brad Pitt fait partie de l'élite des astronautes.
Voilà.
Mondiaux.
C'est pas le
fils, donc fils de d'une légende de la conquête spatiale.
C'est une légende de la conquête spatiale.
Tu vois, d'ailleurs, les cadres, on voit Buzz Aldrin, il est au milieu de tout ça. Enfin, c'est...
Et Tommy Jones, jeune.
Petit clin d'œil.
Et du coup, là, il l'a envoyé sur la Lune, et effectivement, tout le voyage et tout le passage de la Lune est vraiment excellent.
C'est-à-dire que juste pour avant d'aller sur la Lune,
oui,
on a un explicatif, à un moment, on a une exposition de Brad Pitt, de personnage, parce qu'il est convoqué par ses supérieurs dans une réunion top secret. Là, c'est là qu'on se rend compte aussi de tout l'étendue de ce mec-là, et un peu aussi ce qui fait qu'il est tout seul aujourd'hui, en l'espace de 5 minutes, quoi, avec le général qui donne toutes ses références. Mais en fait, on est face à un homme qui est donc très contrôle de
lui-même.
Il sait professionnel à fond. Enfin, il connaît son métier. Il est dévoué à son travail, à sa mission, à son équipe. Enfin, c'est quelqu'un qui est 1000% travail au point d'avoir justement. Et ça, on s'est montré aussi très rapidement.
Ouais, qu'il est divorcé.
Qu'il est divorcé. Ouais. Bon, on ne sait pas s'il divorce ou si elle jette une balle. Elle jette une balle ou
Non, il est divorcé. Il dit divorcé sans enfant.
Et oui, très calme.
Toujours très calme.
Et on apprend d'ailleurs que lorsque, lors de cette réunion top secrète, donc après son accident, après sa chute de la tour de plusieurs milliers de mètres,
ouais, plutôt quelques
on apprend
kilomètres,
que sa tension n'a jamais dépassé 80.
C'est quand même chaud.
Non, c'est pas sa tension, c'est son rythme cardiaque. Non,
ouais, ouais.
N'a jamais dépassé 80, ce qui apparemment est un record. Et il explique que même pendant la chute de la tour où il est en chute libre totale et normalement tu paniques, tout le monde mourrait. C'est vrai que tu te rends compte que le mec il bouge pas, il branche
pas.
Non,
il est calme.
Et même là, son rythme n'a pas dépassé 80. Tu fais ok, ce mec là n'est pas humain. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on veut nous montrer.
C'est une machine, quoi.
C'est une machine. Il ne ressent rien, il n'a aucune empathie, aucune.
Non, voilà.
Il est vraiment dans les ordres, dans la mission. Mission, mission, mission.
Un bon soldat. Et donc le vol commercial sur la Lune, bah franchement c'est kiffant. C'est vraiment kiffant.
Ouais, avec Donald Sutherland. Ouais, exact. Parce que d'entre temps,
Donald Sutherland arrive. Sutherland arrive. Et oui, comme je disais, ça fait du bien de voir enfin. C'est dommage que des mecs de cette trempe-là, au final, ne font plus rien. Ils ne sont que des seconds rôles, genre des vieux méchants. Pour des grosses franchises.
Tu sais, moi je me dis, pour des acteurs comme ça, peut-être que c'est leur choix. Hein.
Non, pas que.
Pour moi, Donald Sutherland, il n'a pas rien à prouver. Hein.
Bah ouais, mais.
Il a encore fait un film récemment sur la maladie d'Alzheimer où il joue super bien.
Mais.
Avec Hélène Mirren, je crois, si je ne me trompe pas.
Ouais, mais voilà. Oui, mais ça, c'est parce que c'est un cinéma pour vieux. Enfin, maintenant, il y a justement le cinéma pour vieux. Ouais, oui, c'est comme. J'adore le cinéma. Mais j'adore.
J'ai dit un mauvais mot.
J'adore le cinéma pour vieux. Le cinéma pour vieux, c'est quoi? C'est.
C'est un que.
Non,
Amour
oui,
avec
oui, non, mais c'est, non, ce que je dis, c'est des cinémas pour vie populaire, c'est The Best Marigold Hotel, le truc en Inde.
Oh oui.
Avec M de James Bond.
Exact, comment elle s'appelle déjà
Judi Dench.
Judi Dench.
Philomena avec Judi Dench aussi.
Exact.
J'ai adoré Philomena, j'ai adoré The Best Marigold Hotel.
C'est sur un thème super lourd en plus.
Oui, en plus, ouais.
Des enfants orphelins.
Non, 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 mais le Best Marine. Non, alors,
non, non, l'autre.
Mais, Philomena, oui. Philomena, en fait, ouais. Tu vois que en fait, Judi Dench, en fait, elle, dans sa jeunesse, a dû abandonner. Elle avait eu un enfant, elle a dû abandonner son enfant. Enfin, tu vois, putain, elle était trop jeune. Alors, bref, c'était un excellent film. Donc, du coup, je trouve que, malheureusement, c'est là qu'il ne sert plus qu'à. Ça, c'est comme.
Second couteau, quoi.
Second couteau, et il se joue des méchants, tu vois.
Voilà.
Bah, Hunger Games, tu vois.
Voilà.
Même Tommy Lee Jones.
pas des méchants.
Ces derniers rôles sont pas. Ah,
mais dans Ad Astra, je vois pas comme des méchants.
Non. Je dis que les acteurs, genre Donald Sutherland, du titre de Donald Sutherland, ces trempes-là, ne jouent
maintenant,
plus.
Maintenant, dans d'autres films.
Ouais, voilà, ne sont plus employés comme des vieux second rôle. Non plus tellement la part d'elle. Enfin, là, il a un second rôle, mais c'est un second rôle important.
Ouais, consistant. Il est remplissant. C'est. Il amène la menace, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est qu'il fait comprendre qu'il y a une menace.
Voilà.
Quelque chose qui tourne pas rond dans cette mission et qu'il est au courant, qu'il doit faire attention.
Et que justement, il doit. Voilà, que comme c'est un ancien ami de son père, il vient ramener un premier contact avec le père, tu vois. Où il était très très distant, qui était très très froid. Bah, juste tout le début du film, c'était très froid, quoi. Vous voyez quelques images d'archives ou quelques trucs, mais c'était pas.
Non, on comprend qu'il y a une admiration pour son père, mais il y a aussi une. Il y a eu une absence telle que il idolâtre un. Je sais même pas si c'est un père qui l'idolâtre. C'est un héros, il n'a jamais vraiment connu en tant que père. Donc,
C'est étonnant ça, on ne sait pas justement si c'est idolâtre un héros ou son père en tant que père. Mm-hmm. Mais. Donc assez vite. Cette scène. Parce qu'en fait.
Laquelle?
Ils atterrissent sur la face. Une des faces de la Lune.
Juste avant ça, moi, je voudrais juste pour parler de Donald Sutherland, le premier contact avec Brad Pitt, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Il vient de faire un check psychologique, Brad Pitt, après la réunion top secrète.
Ouais.
Là, Donald Sutherland arrive dans le bureau,
oui.
Il commence à parler, il explique que voilà, c'est un ami de son père, tout ça. Et ce qui est génial, c'est que Brad Pitt, ben, fidèle à lui-même, c'est un mur. Il répond vraiment mais à la militaire, tout bien parfait. Et j'aime bien la petite question qu'il pose, c'est est-ce que le test d'évaluation a déjà commencé ? Et la franchise de Donald Sutherland, oui, non, oui, en fait. Mais là, tu te rends compte qu'effectivement, ils sont. À tout moment, il a accepté la mission, tout va être. Il va être surveillé, quoi. Il va être contrôlé.
Je sens, en fait. Moi, à aucun moment, je me suis dit, il veut parler librement.
Non.
J'ai senti à travers tout le film que. Il était surveillé, en fait. Parce que tu le sens, c'est sous-jacent en fait, que le fait qu'il a des rapports psychologiques qu'il doit faire tout le temps, et qu'ils sont validés en deux secondes, enfin, où ils sont, il le fail qu'une fois.
Et donc, il sert de bouc émissaire pour la. Ouais, il sert de bouc émissaire. C'est une sorte de cheval de Troie. On l'envoie pour justement prendre le contact avec le père, quoi.
Voilà.
Il sert qu'à ça, quoi, parce que tu le sens dès qu'il.
Le départ, il doit juste communiquer avec.
Il est envoyé sur Mars pour pouvoir faire un message, mais avant ça, effectivement, ils font une halte, une sorte de petit arrêt.
Un petit arrêt sur la Lune.
Arrêt toilette. Hop, on va faire pipi ici, on part dans 2 minutes. Dépêchez-vous. Mais entre temps, on va prendre une voiture et on va aller à l'autre bout.
Parce qu'en fait, ils doivent partir de la face cachée de la Lune. Ou là, tu vois qu'il y a quelques bases qui sont là, à côté des.
J'ai cherché, mais j'ai pas vu de base lunaire nazie. Pourtant, il y a des films qui en parlent. Des dessous, on n'a pas vu.
Des références à Iron Sky, effectivement. Ça m'a effleuré 2 secondes l'esprit. Là, si vous l'avez vu, une bonne annonce pour un film avec Udo Kier quelques
minutes juste avant, exact.
Pas bon. Et donc, on apprend que la Lune est un territoire sous tension. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Parce que du coup, il y a une espèce de. C'est comme il décrit ça comme un Far West lunaire.
Exact.
En fait, les gens se battent pour les ressources.
Donc tu comprends déjà que la Lune, elle est, on va dire qu'elle est occupée depuis, mais je ne sais pas combien de temps, mais elle est tellement occupée qu'effectivement, c'est développé des réseaux de pirates et une sorte de, j'imagine du coup, de d'économie underground ou des choses comme ça, quoi.
Pour choper des ressources.
Super bizarre, quoi.
Et donc, du coup, nos amis, enfin, Brad Pitt et Donald Sutherland, sont envoyés sur le côté de la face cachée. Ils ont 3 rovers, enfin 3 petits vaisseaux, enfin. Espèce de jeep lunaire.
Ouais, lunaire, là, sans.
Sans habitacle.
Sans habitacle, sans rien, quoi, vraiment. Et on comprend avant qu'ils partent déjà que. C'est chaud patate.
Ouais.
Ça va être méga chaud patate, les gars, il n'y aura pas d'arrêt pipi.
Non. Et effectivement, ils se font attaquer.
Ouais. Mais là encore une poursuite toute lente.
Ouais, ça c'est marrant ça.
Très souvent en fait, ça c'est un truc qui a eu très souvent dans le film. Je m'attendais à quelque chose qui allait survenir promptement ou des choses comme ça, tu vois, par un peu, pas jumpscare, mais un peu par surprise. Mais en fait non, là-dessus, James Gray, il te prend jamais par surprise.
Non.
Mais c'est pas pour autant que la tension n'est pas là. Et ça j'ai trouvé ça bien, parce que cette course-poursuite, quand tu la vois venir, tu fais, oh putain. Et tu vois les bagnoles qui arrivent ? D'ailleurs, ça, c'est tout lent, hein. C'est pas rapide.
Ils se tirent pas dessus au début. C'est-à-dire que
non.
Le fait qu'il y ait des méchants, enfin des pirates qui arrivent,
et que ça
c'est grillé.
C'est pas très sûr en plus au début.
Oui, c'est pas très sûr. Ouais. En même temps, tu te dis.
Mais qui c'est qui se balade sur la lune à part eux ?
Ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui était respecté, qui est vraiment génial là. C'est le fait que
on entend beaucoup,
on entend beaucoup de choses à travers le casque et que les sons ne sont pas directs, comme dans Gravity.
Tu veux dire avec le micro où on entend.
Voilà, ou ressenti, comme si le l'astronaute, pardon, ressentait les choses.
Ouais.
Parce que dans le son, dans l'espace, il n'y a pas de son. Il n'y a pas d'air, donc les transmissions
c'est
du son.
C'est pas vrai.
Mais impossible, il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas explosé dans l'espace.
Il n'y a pas explosé dans l'espace, non. Alors, mais du coup, Star Wars. Mais attends, mais non, tu peux pas dire ça.
Non, l'air. Tu veux dire l'air, l'air peut exploser dans les vaisseaux à l'intérieur, mais pas des grosses détonations.
Mais l'étoile noire, quand même.
Merde, mais il y a beaucoup d'air à l'intérieur. Attends, fallait nourrir. Fallait oxygéner tout le monde, hein.
Et les Stormtroopers,
c'est ça, quoi. C'est des putains de clones, hein. Et cette course poursuite, franchement, elle est pas bien.
Elle est bien faite parce que vraiment, le principe est gardé. Ça se poursuit plein de balles, en fait, parce que tu sens la vitesse, hein. Même si c'est lent, tu sens que ça va vite, hein. Parce que quand ils se rapprochent, là, t'es en prise directe sur le Jeep avec eux. Ça marche. Non, c'est super intéressant, justement, ça. Comment est-ce qu'il a mis en scène cette course poursuite?
On est dedans.
On est d'abord en retrait, on les voit arriver, et dès qu'ils arrivent au contact, là t'es avec eux, t'es avec Brad Pitt sur la voiture. Bon.
T'as plus trop de plan large d'ailleurs.
On va vous avouer que tout le monde meurt sauf Brad Pitt.
Et Donald Sutherland.
Oui, parce qu'il avait un mémo à laisser à Brad Pitt avant de partir.
Voilà, comme ça. Donc il fallait absolument qu'il soit vivant.
Parce que vu comment ça bouge, vu comment ça canarde, c'est quand même marrant que lui soit encore sur la Jeep.
Ouais.
Parce que la putain de chute qu'ils font, ça on va dire que c'est une petite facilité scénaristique.
En même temps, t'es sur la ligne, donc t'as je sais pas combien de G, différents de G.
Ouais, mais comment ça se fait qu'elle ne tourne pas sur elle-même, par
exemple? Mais si, elle tourne sur elle-même.
Ouais, mais, oui, mais sur, elle reste sur
elle
un
spin, axe... Elle spin sur, son, sur elle-même, elle tourne sur elle-même, et en fait, elle atterrit. Bon, ça c'est vu, on est vu depuis la caméra à l'intérieur, enfin, comme la vision de Brad Pitt.
Mm-hmm.
Et en gros, il atterrit sur avec l'inertie, de la vitesse et le fait que aussi c'est de la poussière aussi sur le sol lunaire.
C'est non,
de la poussière,
c'est sûr, donc c'est
du coup, ça, tu slides un peu. Hop, tu slides.
Là où tout le monde aurait vomi depuis 2 heures, Brad Pitt, lui, il est. Cet homme ne vomit jamais.
Donc, ils arrivent du côté obscur de la lune.
Et là, qu'est-ce qu'il découvre ?
Allez, vas-y !
Ah non, merde, c'est pas de bon film encore, merde !
Et là, il est donc près d'un une navette, enfin, une fusée, vers Mars.
Ils arrivent à une base avant, pour prendre la navette, et là, en fait, on apprend que Donald Sutherland, qui doit l'accompagner et le protéger, normalement,
ouais.
Jusqu'au bout de la mission, peut-être pas au bout, mais au moins aller sur Mars, ne pourra pas l'accompagner.
Alors,
car en fait, la course poursuite sur la Lune l'a complètement
chamboulé.
Mais il avait un message important à lui laisser.
Une carte mémoire pour Brad Pitt, après son père. On part dans la fusée. Et là, on se retrouve dans un effet de fusée. Là, c'est un peu comme dans Mission to Mars. Moi, j'ai vraiment pensé à Mission to Mars de Palma. Tout un équipage.
Peut-être au niveau de la couleur aussi, un petit peu, c'est ce filtre un peu.
Ok, ouais. Les intérieurs sont très restreints, c'est pas des grands habitats.
Ah, c'est très exigu, c'est très claustrophobe. Je pense que c'est comme ça. De toute façon, tout espace est calculé pour le vaisseau et pas pour le confort. Donc c'est,
non, clairement pas.
Donc là, tu sens que les gars, ouais.
Et
d'ailleurs, ils se joignent à cette équipe pour aller jusqu'à Mars.
Voilà.
Mais une équipe de chercheurs.
Oui, voilà, c'est ça.
Des scientifiques.
Ouais, scientifiques et là, on a eu. Donc, ils se font. Ils reçoivent un signal de détresse. Donc, du coup, ils déroutent leur cap.
Mm-hmm. Le capitaine Tanner décide de. Par obligation.
Oui, parce qu'à part. Oui. Excuse-moi, je prends des raccourcis, monsieur, excusez-moi.
Non, mais c'est vrai que tu te rends compte que justement cette équipe-là n'est pas au courant de la mission du tout.
Non,
voilà. Tu peux avoir des doutes. Moi, je me suis dit, c'est peut-être des complices.
Non,
peut-être des gens qui sont là pour surveiller Brad Pitt pour aller jusqu'à la fin. Non, en fait, tu te rends compte que ces gens-là sont vraiment.
Ils sont juste là sur deux choses, ouais, ils sont d'autres missions. Ouais.
Et Brad Pitt, par contre, s'interpose en disant, il ne faut pas aller à la signal des otages.
On va pas faire
ça. Il y a le côté militaire, ouais, les ordres qui reviennent. Mais il ne peut pas éveiller les soupçons. Donc,
non, du coup.
Il est obligé d'accepter au bout d'un moment.
Il accepte d'aller sauver cette station où, pareil, des chercheurs sont là-bas.
C'est une équipe quoi déjà ?
Norvégienne.
Norvégienne, ouais.
Et d'ailleurs, c'est.
Mais oui, dans le futur, il y aura des navettes norvégiennes.
Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que. Mais c'est une partie un peu exploration de vaisseaux abandonnés et je trouve assez intéressante. Au début, j'ai cru que c'était un peu une perte de temps. Mais finalement, ça va. Donc là, on s'aperçoit. Tout doucement, qu'en fait, il n'y a plus d'équipage.
Qu'elle a subi en fait une des surtensions de Neptune, enfin de la zone de Neptune, et ça a dû le libérer. Il a dû se passer quelque chose dans cette station qui a rendu fou.
Des singes.
Ça, j'ai bien aimé, limite. Mais t'en es pas
ça,
du tout,
cool, ouais, non, c'est clair.
Tu t'y attends pas, quoi. C'est
un côté survival horror qui vient d'un coup.
Mm-hmm. Tu t'attends, limite, à ce moment-là, moi, je me suis dit. Peut-être que ça va partir dans le. En même temps, oui, non. J'y croyais pas trop. Mais un monstre, un extraterrestre, une entité. Mais je pensais qu'on allait partir sur autre chose. En fait, non, c'est très terre à terre, là encore.
En même temps, c'est pas le propos du film, c'est juste que ça met des obstacles à Brad Pitt. Mais voilà, donc c'est pas si. C'est pas du temps perdu au niveau de la scénarisation, au niveau de la mise en scène et du scénario. Voilà, ça fait passer le temps, ça rajoute un peu des éléments.
Ben, ça nous permet d'aller sur une discussion après de Brad Pitt avec son check psychologie,
ouais.
Où en fait il parle de cette confrontation avec le singe, il parle de la rage.
Ouais, et puis en fait il avait la même rage que.
Et là tu te rends compte qu'il se permet de dire des choses que d'habitude ne faisait jamais.
Voilà, il commence à être plus humain.
Et on sent qu'il y a quelque chose qui ça le perturbe, il y a quelque chose qui est en train de le toucher dans cette mission, et du coup. Le fait de cette attaque de singe dont lui seul a réussi à s'en sortir parce que l'autre capitaine avec qui il était en est mort.
Et seulement mort, putain.
Seulement mort, ouais. D'ailleurs, j'ai pas compris quand il a dit qu'il allait réussir à le sauver et tout ça.
Ouais, j'ai pas compris non plus.
Ouais, il était déjà mort, quoi.
Bah, pour moi, oui, il était
mais en fait, hein. En fait, oui, le capitaine qui a accompagné Brad Pitt dans le sauvetage se fait.
Bouffer la gueule.
Bouffer pas la gueule et la main par un.
Un babouin.
Par un.
Ouais, c'est un gros babouin.
Et on croit qu'il est mort, mais en fait, non, Brad Pitt,
apparemment. Oui, le mec, il est encore en vie.
On va t'en sortir de là. Quoi. Et il lui met du gros scotch.
Du duct tape. Pardon, je peux parler. Du duct tape sur le casque. Franchement.
Et il te l'envoie. C'est bon. Pop.
Donc, malheureusement, le capitaine meurt. Voilà. Et puis, de nouveau, à ce moment, ils se prennent. Ils sont en approche de descente sur Mars. Mmh. Et là, il y a eu de nouveau une deuxième
surcharge
qui arrive. Donc, du coup, eux, ça les fout un peu, ça les met en panne. Et du coup, ça les désaligne de leur
trajectoire
d'atterrissage. Voilà. Et à ce moment-là, il y a ces petits moments de tension entre Brad Pitt et qui, du coup, est passé capitaine en second.
Oui, parce que
c'était le plus gradé.
Non, parce que l'autre aussi, il était incompétent.
Oui, non, attends. Ah. Oui. Non, enfin, le capitaine en second est passé capitaine, et du coup, Brad Pitt est passé, est passé second. Et voilà, et pendant le désalignement et la descente, le nouveau capitaine a complètement bugué, et c'est Brad Pitt qui prend en charge la descente. Donc tu vois que c'est. Who's the boss, quoi.
Ah.
Who's the boss?
C'est clair.
Who's the boss?
Rien ne l'effraie, rien de.
Non, voilà, il est imperturbable, même après des émotions. Enfin,
une mort, il a failli aussi mourir hein, avec le singe.
C'est vrai, et donc il n'a vraiment pas d'émotion. Donc, et c'est là où moi je commençais à être un peu saoulé par le jeu de Brad Pitt, où. Voilà, c'est ok, d'accord, il n'a pas d'émotion, ok, il contrôle ses émotions, ok, machin, ok, il va voir son papa, machin, mais. Brad Pitt était quand même un acteur. Est bien, moi j'aime beaucoup Brad Pitt, mais qui a forcément c'est pas Matthew McConaughey, c'est pas un merde, Le cas de celui qui fait Abraham Lincoln.
Ah, Daniel Day-Lewis.
Daniel Day-Lewis, c'est pas, Christian Bale. C'est pas, tu vois, c'est pas
Daniel Day-Lewis, c'est un mec qui prépare un rôle pendant un an à l'avance.
Oui, voilà, quoi, mais alors
que il a deux rôles, il a deux films en ce moment à l'affiche, quoi.
Oui, voilà. Non, mais d'accord, c'est pas le même stature, et puis c'est pas le même pognon qui rentre, quoi. Mais.
Tu veux pas dire qu'il est mauvais, bien sûr.
Non, bien sûr. C'était produit par la société de prod de Brad Pitt, Plan B. Qui avait produit 12 Years of Slave.
Qui avait eu un Oscar à l'époque pour ça.
Tout à fait. Et voilà, et donc du coup, on arrive sur Mars. Et là, pareil, Mars, c'est assez minimal. En fait, minimal, c'est le mot pour le film. Et c'est vraiment quelque chose de. Tout est minimal. La mise en scène est minimale. Les décors sont minimaux.
Les lieux, l'environnement.
Après, mais par contre, la photo est magnifique. La DA, pardon, pas la direction d'acteur. Mais la DA, la direction artistique est juste monstrueuse, tu vois, les plans de la station souterraine de Mars, c'est magnifique, quoi.
Ces couloirs rouges quand tu rencontres
ces couloirs avec ces trucs, ça, tu
sens... lumière et ça, c'est vrai que c'est bien vu. Hein.
T'es loin de Verhoeven et de Total Recall, mais putain, c'est bon, quoi.
Non, ça fait plaisir. C'est parce que la Lune, quoi. En fait, au bout du compte, il te la montre comme on la connaît beaucoup, en fait. Il la montre rouge, hein, donc...
La Lune
Mars.
Oui, bien sûr, tu vois, Mars.
Mais avec un angle...
T'as un côté où t'es dans des entrepôts parce que la lune fait très tu vois
tout est en souterrain.
Entrepôt mais un peu classe. Là sur Mars c'est les entrepôts, c'est les sales entrepôts, quoi. C'est les vieux entrepôts industriels et tu sens que tout est souterrain. Et même si t'apprends que je crois qu'il y a comme un truc qui est une cité ou quelque chose qui est en surface, mais il y a celle où on va qui est secrète. C'est sur le territoire américain, ouais, c'est sur terrain. Ouais. Et donc à ce moment-là, il va commencer à faire sa mission, c'est-à-dire à parler à son papa, à
lui envoyer des messages. Une lettre écrite par, j'imagine,
la NASA qui est nommée Spacecom.
Exact, ouais.
Ce n'est pas la NASA, mais c'est Spacecom. Et donc à ce moment-là, voilà, et au fur et à mesure, il va envoyer plusieurs messages, et on sent que petit à petit, il craque.
Il est dans une chambre et on le voit effectivement. Jour en jour, enfin chaque passage dans la chambre, on voit son état où il est de plus en plus dans la réflexion, il est perturbé, on sent même stressé.
Ouais,
on sent respirer très fort, enfin là où on ne l'avait jamais vu, le comportement qu'on n'avait pas encore vu depuis le début du film de sa part.
Non, et.
On sent qu'à partir du moment où il commence à lire ses messages à son père, il y a une réflexion qui est en train de lui monter à la tête.
Et voilà, ce passage-là, j'avoue que c'est quand même assez sympa.
C'est pas mal dans les chambres d'ailleurs.
Ah oui,
en fait, principe des images.
Ça fait penser dans les scènes coupées, les scènes de la version longue de Aliens de James Cameron.
Ouais.
À un moment, il y a ça justement, il y a quand il récupère Ripley, en fait, t'as une espèce de salle où en gros, t'as des images de la forêt qui sont projetées, c'est pour te faire avoir pied avec. La réalité et avec l'extérieur.
Ouais, parce que c'est ce qu'ils expliquent, de toute façon, les gens pètent les plombs à cause du manque de la terre.
Voilà, un manque de terre.
Un manque de. Ouais.
Et donc, ces pièces-là sont. Ils squattent pas mal, enfin, je pense qu'il est obligé, on le force un peu à squatter cet endroit-là.
C'est une prison, t'as l'impression. C'est pas trop mûr, il n'y a rien. C'est très, comme tu dis, très minimaliste.
C'est très, très minimal.
Une chaise, un lit, et tu sens qu'il est filmé.
Tu sens que c'est poussiéreux en plus. Ouais, tu sens que c'est sale et poussiéreux, quoi. Et donc là, c'est vachement bien. Et donc à ce moment-là, il va craquer, il va faire un message plus émotionnel que d'habitude.
Personnel.
Et à ce moment-là, il va se faire éjecter, entre guillemets, de la mission. Ouais. Et il doit être renvoyé sur Terre.
Là, c'est intéressant, tu vas me dire ce que t'en penses.
Ouais.
Parce que, effectivement, à ce moment-là, la décision, c'est clair, tu les vois un peu chambouler dans le bureau derrière la vitre quand tu fais son message et tu comprends qu'il va se passer un truc. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as pas l'impression. Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, ils ont eu un contact aussi? Car lui, s'il pose la question, il fait vous avez un contact.
C'est à un moment, il va vers la vie. Je pense qu'il y a un contact.
Et il pose pas la question, il est affirmatif, il dit vous avez eu un contact.
Non, ouais.
Et là, après, ils arrivent, ils font vous êtes
vu le regard et vu qu'il a été mis de côté,
pour moi, il y a eu contact.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, la mission est d'envoyer une nucléaire sur eux.
Ah, bah oui, sur la mission Lima. Ça confirme, puisqu'après, ils partent effectivement sans autre message, ils décident de. Sans autre message, ils décident de partir effectivement. Donc ça veut dire qu'ils ont trouvé.
Ok. Il y a eu une réponse.
Et là, ça lui fait péter les plombs.
Voilà, donc il pète les plombs. Il se fait aider par la directrice de la base souterraine.
La mère. C'est la bourgmestre de Mars.
Oui, la bourgmestre.
J'ai 1100 citoyens sous mes ordres.
Les juvides, la technologie de la ville d'Ezra. Et donc voilà, et on apprend, il y a un petit truc entre les deux, parce qu'en fait, les parents de cette gonzesse sont partis eux aussi sur la mission Lima, donc il y a la mission du père de Brad Pitt, de Tommy Lee Jones.
Elle est née d'ailleurs pendant cette mission.
Elle est née d'ailleurs justement. Non, elle est née sur Mars. On apprend juste qu'elle est née sur Mars.
Ah, c'est vrai qu'il parle. Oui, autant pour moi, c'est moi qui fais un raccourci.
Et en fait, à ce moment-là, mais elle dit qu'en fait, le père de Brad Pitt apprend la mutinerie et a tué les parents de cette gonzesse.
Elle lui montre une vidéo, effectivement. Ouais.
De cette femme, de cette directrice. Et donc, la directrice, en gros, lui dit voilà, moi, je t'envoie. En gros, je te donne accès à la navette qui est en partance.
Pour ton père.
Pour aller nuquer le daron, près de Neptune. Je te donne, je te mets genre à.
C'est les termes utilisés dans le film. Ouais, pour nuquer le daron.
Nuquer le daron.
Allez, Roy.
C'est quand c'est pas mal, donc du coup elle l'amène en rover dans une petite trappe et donc après Brad Pitt doit aller nager dans l'eau.
Ouais.
Alors je sais pas pourquoi.
Très métaphorique justement aussi, ouais, l'inconnu. Là il va vraiment.
J'ai trouvé ça un peu très maternel, tu vois. Il y a un côté très liquide abiotique. Tu vois, où il doit. Comme une naissance où en fait il doit sortir du liquide abiotique et il arrive dans ce pas de tir, sous la fusée.
Ouais.
Il arrive à s'incruster dans la davette au moment du peu de temps avant le décollage.
Ouais.
Mais moi je trouve qu'il y a un côté très maternel et c'est-à-dire c'est le seul. Parce que le côté de la mère n'a jamais été abordé.
Non.
Le côté maternel, ça, c'est vraiment une filiation, enfin une explication. Une étude du le rapport entre un père et son fils, mais par rapport à la mère
on en parle.
Est très vite saccagé et en gros tu comprends que le daron il a dit bon bah, de toute façon voilà moi je suis parti, j'avais à faire ce que j'avais à faire, c'était explorer l'espace et essayer de voir s'il y a des extraterrestres, que j'ai une femme ou des gamins j'en ai un peu rien à foutre quoi.
Pourquoi t'en fais dans ces cas-là?
Voilà, c'est très vite expédié. Et donc le rapport à la mère, d'ailleurs Brad Pitt n'a pas d'enfant. Il est divorcé, le rapport à la femme est très bizarre et très distant et très froid, même si à la fin, effectivement, avec Liv Tyler, on a un peu plus de un côté plus maternel qui est là. Et d'ailleurs, moi je pense qu'à la fin, il a, à mon avis, il lui fait un gamin à Liv Tyler.
Je sais pas, on n'a pas vu
même
la scène.
Même si on ne sait pas du tout expliquer, moi je pense qu'il y a une approche comme ça. Peut-être. Mais
c'est le but, hein. Enfin, c'est ce qu'on veut te faire penser et prendre.
Oui. Et donc, pour moi, Brad Pitt est passé sous l'eau, donc il fait un deuxième accouchement. Et en fait, c'est le deuxième accouchement de sa vie, de le film. C'est que là, l'émotion va commencer. L'émotion est arrivée et l'émotion va prendre le pas sur sa formation de militaire et sa mission. Parce que là, maintenant, il est hors mission.
Oui, effectivement. Là, il est livré à lui-même, en fait.
Voilà.
Il le dit même à un moment, il coupe les communications. Il est quand même militaire. Il faut le dire. Ça.
Ah oui, non, mais après, donc, du coup, on va expliquer comment il va arriver.
Ce fameux passage dans l'eau. Est-ce que c'est à ce moment-là où il a une phrase, je trouve, un peu générique, mais qui a quand même l'ordre de sens pour lui dans son parcours.
C'est beau l'espace.
Les enfants payent toujours les péchés de leurs parents.
Ouais, je crois que c'est là, effectivement.
C'est dans ce moment-là.
C'est le rebirth, hein, tu vois. C'est
donc,
le rebirth.
Effectivement, on sent qu'il est dans une nouvelle quête, une nouvelle recherche
par rapport à son père.
Ouais, par rapport à son père. Mais quand il parle de péché, on ne sait pas trop de quoi il parle. Est-ce que justement, c'est par rapport au fait que son père l'a abandonné et que du coup, la vie qu'il a maintenant, c'est à cause de son père, et du coup, il paye les péchés de son père qui n'a pas été là, du coup, lui est pareil. Ou alors, est-ce que c'est les péchés par rapport à la mission? Enfin, ou alors, dans ce cas-là, on est très terre à terre.
Non, je crois que c'est plus par rapport, de façon générique, à. C'est plus une phrase choc qui est relativement vraie, je trouve. Et on peut en débattre pas mal d'années, mais. C'est-à-dire que, ouais, et là. C'est lui qui doit payer les pots cassés de la folie de son père, où il doit aller tuer son père, quoi, en fait. On lui dit, en fait, en gros, c'est ça.
C'est ce qu'on lui demande, effectivement.
En gros, la mission, c'est d'aller tuer son père, quoi.
Ouais, ouais.
Enfin, il sait que la mission qui part, qui décode la fusée, c'est pour aller tuer son père. Et donc, en gros, si lui, il va mettre les pieds dedans, c'est qu'il va prendre part
émotionnellement
de son père, quoi. Ouais. C'est donc ce côté oedipien qui ressort.
Ouais, ouais.
Et en fait, bon, pas spoiler alert, mais il rentre dans la navette, et là, SpaceCom, donc la NASA, dit au commandant, au capitaine de la, du vaisseau, de la fusée, de neutraliser.
Par tous les moyens, neutraliser.
Et après, par des circonstances où effectivement, c'est pas vraiment sa faute, mais il bute tout le monde. Quoi. Il bute tout le monde, mais c'est pas vraiment sa faute.
Il n'en tue aucun. Il n'en tue aucun. Puisque non. Quand ils viennent le chercher dans le sas, en fait, c'est le mec aux commandes qui fait une
Non, c'est une poussée. Il lâche un étage.
Ouais, il lâche un étage, mais la bite n'y est pour rien.
Oui, non, mais c'est la procédure.
Et après, l'autre vient pour l'aider, il veut essayer de le tuer, mais il arrive à se défendre, Brad Pitt. Et là, c'est l'autre capitaine, le nouveau capitaine, qui tire une balle, qui va dans une sorte de réservoir.
De bonbonne de gaz.
Et donc, qui coupe l'air, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, l'air est. Du coup, l'air est nocif.
Contaminé.
Et comme lui, il est en combinaison, il résiste, et les deux autres meurent comme des coups.
Mais à cause de son tir à la con de l'autre, quoi. Brad Pitt n'y est, effectivement, c'est limite un accident, quoi.
Et il le dit d'ailleurs, il le dit que justement,
je ne suis pas un ennemi, je ne suis pas, je ne veux pas. De... Ah non, oui, après.
Et il le dit, je ne suis pas un ennemi, et vous tiendrez compte que la boîte noire montrera qu'est-ce qui s'est passé, mais sachez que moi, j'ai pas. L'histoire jugera.
Effectivement, si on. Ouais.
C'est un peu prétentieux, je trouve, mais bon, voilà.
L'histoire avec un grand H,
Et donc là, et maintenant, il est en partance pour Neptune.
Voilà, donc là, c'est croisière.
Bon, prise 2, on est. L'enregistrement a claqué.